Radio Courtoisie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 4 décembre 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 5 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la dissidence, bonsoir. Ce soir, une émission orpheline parce que Victoria n'est pas là, Jacques n'est pas là. Enfin, Jacques, vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez même pas. Enfin, c'est une des chevilles ouvrières du complot. C'est lui qui reçoit, il fait partie de ceux qui reçoivent les messages, il n'est pas là. Donc, vous risquez d'avoir beaucoup de difficultés à appeler l'émission, je vous le signale, parce que je crois que la permanence des téléphonistes est moins qu'assurée. Et d'autre part, je risque, quant à moi, d'avoir quelques difficultés à gérer, comme on dit maintenant, l'émission. Je vais encore recevoir une lettre du monomaniaque du... Enfin bref, donc je vais avoir du mal à gérer et je vous en présente à l'avance mes excuses. Oui, c'est ça, j'ai pas fait de faute de français, là, ça va?
Bon, c'est bon.
Je me méfie maintenant, parce que c'est à peu près les seules choses qui déclenchent du courrier, ça. Anonyme, généralement, d'ailleurs. Il y a ça ou dire du mal des Boches. Oh, pardon, des Allemands. Excusez-moi, attends, je dis ça pour rien. Voilà, alors le programme de ce soir. Si nos invités arrivent à franchir l'énorme barrage constitué exclusivement de crétins à front bas, qui est en train d'entourer Radio Courtoisie sous le prétexte tiens, voilà, Roger arrive, donc il a réussi à vaincre le barrage, ça ne m'étonne pas. La radio est littéralement cernée par une marée humaine à base de tête de, comment dit-on, une figure de topologie servant à lier deux morceaux de ficelle entre eux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin à tête de quelque chose, qui vont se précipiter pour aller voir 22 crétins se disputer un seul ballon, alors que ça serait tellement plus simple, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, de leur distribuer un ballon à chacun, ils nous emmerderaient moins, et au moins la télévision pourrait faire des économies.
Il y a un peu plus de 22 crétins quand même sur le terrain.
Oui, ça j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup plus.
Si on intègre les tribus, c'est 22 crétins, les remplaçants et les 4 arbitres.
Les 4 arbitres.
Oui.
Avec un Z.
Oui. Non, c'est voilà, c'est pour prouver que ça rembête ce sport.
En ce qui vous concerne, c'est parfaitement réussi, mon petit Henri. C'est Henri de Fersan que vous venez d'entendre, la voix de... Voilà comment on parle français correctement. Bonjour Yolande, bonsoir.
Bonsoir. Ben oui, c'est difficile d'arriver. Hein.
Il faut causer dans le micro.
Oui, il n'y a aucune place dans tout le quartier.
Heureusement, quand on sera au pouvoir, on réglera tout ça. Ouais. Patrick Goffman, bonsoir.
Quelle idée aussi de faire un match à 18h30.
Non, mais de faire un match en général, 18h30, 4h du matin, c'est pareil, c'est inutile. Voilà, bon. Alors, les invités de ce soir. Roger Lindre, bien entendu, le docteur Dor, bonjour docteur.
Bonjour, cher monsieur.
Jacques Leminor. Jacques Leminor, il est... qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'ailleurs?
Je fais beaucoup de choses, et entre autres, je fais beaucoup de bénévolat à Renaissance catholique, et je suis là pour ça ce soir.
Ah, c'est ça.
C'est ça.
Donc moi, j'ai dit secrétaire général dans Renaissance catholique.
Non, je ne suis pas... Non, général je ne suis pas secrétaire général.
Général colonel?
Non, secrétaire je colonel. Dois être quelque chose comme...
Factotum.
Oui.
Factotum à Renaissance catholique, qui viendra nous dire quelques mots de pure publicité pour la 11e vente dédicace de livres qui aura lieu au Palais des Congrès de Versailles, 8-10 rue de la Chancellerie, place d'Armes, dimanche 15 décembre 2002, de 11h30 à 18h. Merci Jacques Leminor.
Tu as tout dit, je te remercie.
Bon. Et ensuite, nous recevrons donc M. Georges Osario, qui est écrivain et membre de l'Académie. Enfin, il a un titre magnifique, mais je l'ai déjà oublié. Il est quelque chose à New York. C'est un ingénieur de très haut niveau qui a, comme tous les ingénieurs de haut niveau d'ailleurs, qui a écrit un livre qui s'appelle L'abécédaire de l'au-delà, fort intéressant. Ensuite, nous recevrons Madame Karen Darentière qui a écrit un très beau livre, La foi catholique. Tiens, tu ferais bien de le lire, Roger. Ça ne va pas te faire de mal, ça.
Ah bon ?
Oui, non, mais tu sais, il fait un moment où il faut commencer à réfléchir aux fins dernières. Je t'expliquerai ça.
Ça vient.
Au micro. Et puis, voilà. Et puis, alors, Madame Sylvie Jumel, qui nous présentera un livre, La sorcellerie au cœur de l'État, qui me paraît fort intéressant. Enfin, qui est fort intéressant. On l'interrogera sur le caractère sorcellesque de Jacques Chirac, parce que vous avez entendu son discours à propos de Dumas. Il a dit une chose. Il a commencé son discours en disant grâce à vous, Alexandre Dumas, nous avons été D'Artagnan, Monte Cristo, Balsamo. Alors c'est tout à fait extraordinaire comme déclaration, parce que Alexandre Dumas, il a dû créer pour combien de centaines de héros, en tout cas de dizaines de héros positifs, dont évidemment D'Artagnan. Monte Cristo, c'est un tout petit peu plus contestable, parce que c'est quand même un vengeur acharné, donc c'est pas beau.
C'est tiré d'une histoire vraie, d'ailleurs.
Oui, D'Artagnan aussi, voyons. Mm. Donc tout ce que fait Dumas, c'est... il disait qu'importe si on viole l'histoire, pourvu qu'on lui fasse de beaux enfants. Mm. Voilà. Mais Balsamo, c'est une crapule absolue. Mais c'est une... C'est un personnage qui faisait de la sorcellerie, on a dit que c'était Cagliostro. C'est l'homme qui a instrumenté l'affaire du collier de la reine. C'est l'homme qui a trompé le cardinal de Rohan en lui présentant une servante déguisée.
Mais c'est pas lui qui écrit ses discours. Alors il lit ce qu'on lui écrit.
C'est pas Dumas qui écrivait ses ouvrages.
Non, ça c'est pas vrai. Alors là, voilà une calomnie dont il faudra faire raison un jour. D'ailleurs, le Minor m'en rendrait raison demain
sur le champ.
Mmh. Bon, alors donc je vais quand même essayer d'en savoir plus sur cette histoire-là. Quelques réflexions relatives à l'actualité. Je vous signale que vous écoutez donc le libre journal de Serge de Beketch. Il y a un libre journal imprimé, je le signale, parce que qui est remarquable, tout le monde est d'accord là-dessus, sauf ceux qui ne se sont pas réabonnés pour des raisons qui m'échappent lourdement. Mais enfin, en tout cas, c'est un décadaire, donc il paraît tous les 10 jours, et qui est très bien imprimé sur du beau papier, avec des articles fort intéressants, n'est-ce pas, monsieur Lain? Je pose la question.
Très bien.
Mais j'ai entendu, c'est avant-hier soir, dans une émission, puis encore ce matin, une personnalité éminente, qui est monsieur Griotteret, dire qu'il n'y avait plus de presse nationale. Alors, monsieur Griotteret n'a peut-être pas beaucoup de temps consacré à la lecture des journaux, mais je pourrais lui faire éventuellement un service du libre journal. On pourrait lui faire un service de Présent, un service de Monde et Vie, un service de National Hebdo, un service de Rivarol, un service du Libre Arverne. Encore que ça, c'est vraiment pas un cadeau. Mais on pourrait lui faire des services de ces journaux-là, au moins un exemplaire. Il verrait que... La Durbelière aussi, oui. C'est vrai, docteur, absolument.
La Renaissance catholique.
Et puis Renaissance catholique, et puis...
Reconquête.
Et tout. Bon, il y a quand même quelques dizaines de titres qui sont pas tous négligeables. Si, c'est vrai que si Griotet voulait parler de son ancien journal Le Figaro, effectivement, il n'y a plus de presse nationale. Dans le dernier numéro du Figaro, enfin pas le dernier, dans le numéro daté du 2 décembre, il y avait un article de Guy Barret qui protestait parce qu'on avait laissé des artistes français s'installer en squatter dans un immeuble qui était destiné à loger des Maliens. Et il exigeait le vidage immédiat avec la plus grande fermeté par les forces de l'ordre de la préfecture de ces salopards de Français qui prennent la place des Maliens. Alors, ça, quand c'est dans Libération, je me marre. Quand c'est dans ce genre de presse, c'est rigolo. Mais dans le Figaro, ça a dû quand même un peu défriser les lecteurs.
Je ne sais pas si ça défrise encore tellement de gens.
C'est vrai que le lecteur du Figaro n'a pas été tellement frisé.
Au moment où on parle, là, certainement que les Américains et les Anglais sont en train de bombarder l'Irak. En ce moment même, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Bon,
s'ils tiennent absolument à bombarder quelqu'un, je préfère que ça soit l'Irak.
Quand on arrive, là, il y en a 400, on va les reloger à l'hôtel. Mais demain, il y en a 4000 qui arriveront. Et les Français, même s'ils n'écoutent pas la radio, ils voient bien la télévision. Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte, quand même, quand on leur montre ces camps de Rome, hein, que les mecs, ils s'installent sur des tas de merde. Toi, si tu prends une guitoune ou une caravane pour installer ta famille parce que t'es dans la misère, tu nettoies au moins les 20 mètres carrés, nécessaires, et tu remets pas de la merde en supplément.
C'est la chose que, la réflexion que je me suis faite tout de suite, ces gens-là se plaignent de vivre sur des tas d'ordures. Mais, enfin, moi, j'ai été scout. Quand on arrivait dans un endroit qui était un peu sale, avant de monter le camp, on nettoyait l'endroit. Ça arrive qu'il y ait des endroits.
C'est la première chose que je faisais avec mes cadets, moi.
On n'allait pas au commissariat de police ou à la gendarmerie pour dire, écoutez, c'est dégoûtant, est-ce que vous voulez pas envoyer les éboueurs pour nettoyer ce terrain avant qu'on s'installe? Qui vient de s'installer chez nous? Bon, déjà, ils n'ont aucun titre ni droit. Mais enfin, admettons, les Roms, ils se promènent partout, ils déambulent, c'est leur nature, c'est leur tradition. Et puis après tout, c'est pas tellement, c'est plutôt pittoresque de voir. Moi, j'ai plutôt de la sympathie pour les Romanichels. Je trouve ça folklorique, puis dans la mesure où ça ne coûte que 2 ou 3 poules, c'est pas bien dramatique. Ouais. Mais...
C'est pas les tiennes, c'est
celle du voisin.
Maintenant, ils ont trouvé que les parcmètres étaient plus rentables que les poules.
Mais moi, je suis tout à fait d'accord pour le pillage des parcmètres.
Vous y êtes tous sympathique.
J'ai pas de voiture, donc je suis pas concerné. Mais...
Le problème n'est pas là, c'est que ces gens sont roumains. Ils sont bien roumains. Ah. Bon, ils sont de nationalité roumaine. Ils ne se sont jamais intégrés à la population roumaine. Alors, comment vont-ils s'intégrer à la nôtre?
Ils veulent pas du tout s'intégrer.
À Sevran, dont je peux parler, j'ai été député dans la région de l'ancienne circonscription, j'ai été conseiller municipal à Sevran, et ça aussi, les gens le voient bien, au moins les gens de Sevran. Il y avait 180 caravanes l'année dernière qui étaient autour de l'hôpital, parce qu'un des jeunes qui était malade avait été mis à l'hôpital à Sevran. Ils ont dit, on partira quand le jeune sortira. Ils avaient occupé tous les terrains alentours, des terrains de tennis, des terrains, tous les terrains alentours, et personne ne pouvait les chasser.
En tout cas, on ne peut pas leur reprocher de ne pas s'occuper de leurs enfants.
Ah oui, c'est sûr et certain. On pourra quand même se demander comment et avec quel argent ils achètent les caravanes, avec des Mercedes papales, avec des trucs à 40 briques, tout ça est payé en liquide. Toi, si tu veux aller acheter un vélo pour ton enfant avec du liquide, tu ne peux pas. Il est interdit en France d'acheter quelque chose avec dépassant une certaine somme avec de l'argent liquide. Comment peuvent-ils acheter tout ça? Et qui les assure? Avec comment est-ce que c'est fait? Où est le titre de propriété? Où est-ce que c'est tout ça?
Mais c'est
moi, je suis un
moi,
peu
je crois que c'est pas du tout eux qui sont en cause, là. Ouais. C'est pas eux. Eux, ils appartiennent à une tradition qui a toujours été vécue comme ça. Toujours. Bon. Maintenant, en France, il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir politique. Il y a un pouvoir policier. Il y a un pouvoir gendarmeste. Il y a un pouvoir judiciaire. Qui, soi-disant, sont là pour appliquer des lois. Bon, visiblement, c'est le pouvoir qui n'applique pas ces lois. Moi, je suis quand même effectivement assez stupéfait de voir que il y a une voiture qui, tragiquement, conduite par un monsieur qui n'avait pas respecté la limitation de vitesse, tue 5 pompiers, et immédiatement, on voit le président de la République se rendre aux obsèques des pompiers, ce qui est déjà, à mon avis, c'est pas son rôle, quoi, tout simplement. Et ensuite, le ministre de l'Intérieur se précipitait vociférant, bavant et écumant à la tribune de l'Assemblée pour menacer les automobilistes des pires sanctions, dire qu'on va transformer les autoroutes en pistes de surveillance avec une caméra tous les 300 mètres et un radar tous les 200 mètres pour vérifier la voiture, vérifier la vitesse des véhicules, vérifier l'identité des chauffeurs, etc. et immédiatement les frapper avec la dernière vigueur. Moi, je suis pas contre du tout. Après tout, si ça pouvait économiser quelques milliers de vies, mais il faut faire la même chose dans les les banlieues. Il faut mettre des milliers de caméras braquées sur les rues des banlieues, sur les stations-service qui sont pillées, sur les magasins dont on arrache les rideaux de fer, et il faut choper les gars qui font ça comme s'ils faisaient un excès de vitesse. Parce que ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'un voyou qui attaque, par exemple, qui pille un magasin, il risque rien s'il part en respectant la limitation de vitesse à bord de sa voiture volée. En revanche, le gars qui va le doubler à 130 à l'heure en n'ayant ni volé ni blessé personne, lui, il va aller en tôle. On vit vraiment sur la tête, quoi.
Et vous connaissez, Serge, le plus ironique de l'histoire, c'est que la personne qui a tué les 5 pompiers est un ancien conseiller municipal. Ils n'ont pas précisé la couleur politique. Avec un peu de chance, c'est un ancien RPR.
Non, mais un copain de noir. C'est un copain de noir, moi.
Mais c'est pas parce qu'il est ancien élu municipal qu'il a renversé les pompiers. D'ailleurs, alors on peut faire encore une parenthèse. J'écoutais la radio à propos de cette histoire. Les journalistes de radio, c'est n'importe quoi. Ils l'appellent l'élu maintenant. L'élu qui a renversé les pompiers.
Il n'était plus élu.
C'est pas parce qu'il est élu. C'est comme quand il y a un assassin, on dit toujours ancien légionnaire. On dit jamais ancien membre des Brigades Rouges
ou l'ancien artilleur.
Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, bref, voilà. Non, je suis pas content.
Non, mais ce qui est dramatique, c'est qu'il nous catalogue de racistes pour n'importe quoi et pour tout, alors qu'on ne l'est pas. Il nous catalogue de sans-cœur, alors que moi, je connais tout un tas de gens de gauche qui sont des radin, et j'ai de leçons à recevoir de personnes à ce sujet-là. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on aide des gens dans le malheur, même des étrangers, mais je veux d'abord qu'ils nous demandent pour rentrer chez nous, et ensuite qu'ils disent merci. Voilà, au moins une chose. Qu'ils disent merci. Voilà.
Alors, il y a un invité, quelqu'un qui vient très souvent à Radio Contrôlée dans l'émission de Yannick Curien, qui s'appelle Jacques Miard. Il est député maire de Maison Lafitte. Et quand on l'entend à Radio Courtoisie, c'est un dur à la toile, hein, raide à la toile, c'est pas un homme de gauche, hein, vous pouvez y aller. Alors je viens de recevoir là, le programme du cinéma municipal de Maison Lafitte. Je me demande si, quand même, c'est pas légèrement monomaniaque tout ça. Je vais vous lire, parce que je vais vous lire le programme quand même, ça. Le programme du mois de novembre, hein, ou de décembre, enfin peu importe. Le programme de ces temps-ci. Voilà, alors... Premier film, Drancy Avenir. En 1996, une étudiante en histoire enquête sur les traces de la participation française à l'extermination des Juifs d'Europe. Deuxième film, Voyage. En Pologne, à Paris, à Tel Aviv, enquête de 3 vieilles femmes aux destins entremêlés. Rivka traverse la Pologne et revient à Auschwitz. Régine rencontre à Paris un vieux lituanien qui prétend être son père, etc. etc. Troisième film, La dernière lettre. La dernière lettre est celle qu'ont écrit en 41 à son fils qui vit loin du front, Anna Semyonovna, juive, médecin dans une petite ville d'Ukraine. Quatrième film, Le dictateur. Le cinquième film, alors là, ils ont dû se gourer parce que c'est pour un garçon avec Hugh Grant. Ils ont dû croire que c'était une histoire de... Je sais pas. Non, je sais pas ce qu'ils ont créé. Mais je me demande, c'est pas légèrement monomaniaque, tout ça, ces programmes-là.
Je suis un peu déçu, il n'y a pas de film avec Primo Levi. Il n'y a pas de film basé sur une nouvelle de Primo Levi.
Non, mais je sais pas si Primo Levi est très bien vu en ce moment. J'ai lu un texte de lui récemment, que j'ai trouvé extrêmement bizarre, quand même. Je vais vous le lire, parce que c'est marrant que vous parliez de Primo Levi. Parce que j'ai trouvé un texte de lui, enfin, c'est un ami qui m'a envoyé ça. C'est tiré de L'Élite. Primo Levi, c'est un livre de Primo Levi, qui est paru en livre de poche biblio, numéro 31-24, page 157 à 161. Alors, il dit, monsieur Primo Levi, je cite, hein, moi je cite, c'est pas la peine de me chercher les poules dans la tête, hein, si vous voulez chercher les poules dans la tête à quelqu'un, c'est à monsieur Primo Levi qu'il faut les chercher, on est bien clair, hein, bon. De tout ce que tu viens de lire, c'est la fin du bouquin, non, vous voyez, page 157 à 161. C'est un bouquin sur la chose, bien entendu. Voilà, on a bien compris. Hein. De tout ce que tu viens de lire, tu pourras déduire que le mensonge est un péché pour les autres et pour nous une vertu. Avec le mensonge patiemment appris et pieusement exercé, si Dieu nous assiste, nous arriverons à dominer ce pays et peut-être le monde, mais cela ne se pourra faire qu'à la condition d'avoir su mentir mieux et plus longtemps que nos adversaires. Je ne le verrai pas, mais toi tu le verras. Ce sera un nouvel âge d'or. Il nous suffira pour gouverner l'État et administrer la chose publique de prodiguer les pieux mensonges que nous aurons su, entre-temps, porter à leur perfection. Moi, Primo Levi est considéré comme une grande figure de la morale moderne, quoi. Hein. Et je suis un petit peu surpris de lire sous la plume d'un personnage aussi considérable, aussi respectable, un éloge du mensonge. C'est un peu choquant, je trouve.
Hein, je sais pas, menté.
Menté, il en restera toujours quelque chose. Voilà. Puisque vous parliez de Primo Levi, voilà, c'est. Et puis je voulais remontrer à Roger Hollande quand même, qui est un moraliste distingué, la nouvelle publicité pour la Poste pour les comptes Bagou, B-A-G-O-O. Alors, tu n'as pas vu ça, Roger? Tiens, regarde.
Non, c'est vu,
alors, c'est un dépliant, trois pages en couleur, avec, donc on voit une illustration, c'est un jeune veau.
C'est insultant pour les veaux quand même. Hein. J'ai connu des veaux qui se tenaient mieux que ça. Hein.
Moi aussi j'ai connu des veaux qui se tenaient mieux. Mais... Donc un jeune veau à demi nu sur un lit défait.
Dans une piaule.
Dans une piaule.
Qui est encore plus mal rangée que mon bureau, ce qui est pas peu dire.
C'est pas une piaule, c'est comme on.
C'est vraiment absolument infernal.
Un tas d'ordures. Sur lequel on pourrait mettre une caravane. Et donc c'est la publicité. Si vous viviez comme vos parents, nous n'aurions pas créé Bagou, ce qui veut dire que les jeunes d'aujourd'hui qui vivent dans la, comme disait Roger tout à l'heure, ne vivent pas comme leurs parents. Et ça donne une image assez effrayante, non pas de la jeunesse, parce que la jeunesse n'est pas concernée, mais de l'image que les publicitaires payés par les services d'une société d'État, la Poste est encore une société d'État, colporte de la jeunesse. Si vous allez dans un bureau de poste, et si vous arrivez à vous faire servir, parce que ça c'est encore une autre paire de manches, n'hésitez pas à regarder cette publicité, demandez le dépliant pour la publicité Bagou. Et puis naturellement, si vous avez des enfants de 16 à 25 ans, vous pouvez toujours leur ouvrir un compte en banque ailleurs, parce que si c'est pour avoir une chambre comme ça, on dirait la chambre de mon fils. Bien, alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, c'est à peu près tout. Je vous recommande la lecture de la plaquette publiée par le Secours catholique, Message du Secours catholique. Elle est intéressante parce que ça fait naturellement appel à votre générosité à l'occasion du carême d'avant. Et vous verrez, il y a donc 8 pages, c'est ça, 8 pages. Ces 8 pages, il y a 1, 2, 3, 4, 5 photos. Sur ces 5 photos, il y a 5 photos de maghrébins et d'africains et des articles qui vous expliquent que ces gens-là en France sont vraiment très 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 malheureux et qu'il faut donner beaucoup d'argent, non pas pour les aider à être heureux chez eux, mais pour les aider à s'offrir certains plaisirs en France, je cite, et à s'installer donc en France
le gouvernement français qui doit avoir de l'argent à foutre par les fenêtres a donné des dizaines de millions d'euros à Madagascar parce que les gens crèvent de faim. Hein, quand la France était à Madagascar, l'île était immensément riche, hein, et Madagascar fournissait de la viande à toute la région là-bas, y compris à la moitié de l'Europe. Mais dans le même temps, on félicite aussi le Zimbabwe de foutre à la porte les Européens qui tenaient les fermes, hein, étant donné que, c'est bien entendu, ils avaient volé les meilleures terres. Ce qui permet à M. Noah de dire les Blancs sont venus en Afrique, hein, et quand il n'y avait plus rien, ils sont repartis, ils nous ont laissés dans la mouise. Voilà, ils écrivent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, mais comme personne ne rectifie jamais, tous ces petits messieurs de banlieue, ils se mettent ça dans la tête. Alors, avec
façon,
en plus le fait qu'on a perdu la guerre, que leurs pères ont écrasé l'armée française, que là-bas, c'était une occupation infernale. Mais tout ça, c'est amené par des gens les mêmes qui font cette propagande pour le métissage et autres, contre qui je n'ai rien. J'aime beaucoup les métis. Dans ma famille, il y a beaucoup de métis, parce que j'avais épousé une fille qui était carteronne vietnamienne. Donc, non seulement quand j'étais en Indochine, je vivais avec cette fille qui était... Enfin, je ne vivais pas, mais je l'ai connue et j'ai connu sa famille. Sa grand-mère était une pure vietnamienne.
donc c'était un mélange de blancs, de métis, de Carteron et tout, qui était pro-français. Il y avait le drapeau français dans la tête et dans l'esprit de tous ces gens-là, mais que le métissage soit devenu maintenant une obligation nationale et qu'on ne parle que de ça du matin au soir. Et moi, je me demandais pourquoi ils voulaient transférer au Panthéon. J'avais rien contre. Moi, j'aime beaucoup tous ces livres, comme vous, comme toi, je les ai lus et c'est merveilleux. Mais enfin, de là, hein, alors ce pauvre type, c'était un sans-papier. Il était considéré comme un sans-papier. C'était un malheur. Son père a été chassé de l'armée par Napoléon. Je cherche désespérément pourquoi il a été chassé de l'armée par Napoléon. J'en sais rien. C'est il n'a certainement tout, pas d'ailleurs. Été chassé parce qu'il était mulâtre. Bon, bon. Alors,
non, il n'a pas été chassé du tout.
Non, tout ça a commencé il y a des années. Un jour, j'écoutais la radio, il y a au moins 10 ans de ça, et j'entends une émission de Monsieur Roger Pic. Monsieur Roger Pic était un journaliste et un reporter communiste. Et il faisait une émission sur la Corée. Il dit, tel jour, telle heure, au matin, les troupes de la Corée du Sud attaque la Corée du Nord. Oui, bah c'est emmerdant, mais c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est la Corée du Nord qui a envahi la Corée du Sud. Bon, mais à part les gens qui s'intéressent un peu à la question, qui suivent un peu la politique, qui suivent un peu l'histoire, mais pour les trois quarts des gens qui écoutaient, d'ailleurs, ils s'en foutent, je crois qu'ils s'en foutent, ils s'en foutent totalement. Je crois qu'il n'y a plus d'esprit critique, il n'y a plus rien, je crois. Je vois l'autre soir, là. Et ça prouve quand même que ce pays est devenu un pays de veaux. Je rentrais de Cannes, où j'avais été faire un déjeuner débat, qui était très, très, très sympathique. Il y avait plus de 200 personnes, c'était sympathique. Bon, je prends l'avion pour rentrer sur Paris, et j'arrive à Orly. Il pleuvait, c'était noir, le temps dégueulasse et tout. J'arrive pour prendre les taxis, il y avait au moins 600 personnes qui attendaient, au moins 600 personnes. Il n'y avait pas un flic, il n'y avait pas un type de l'aérogare pour diriger les gens. Les taxis arrivaient un par un, deux par deux, alors qu'il y a des centaines de taxis. Tout ça aurait pu être absorbé en 10 minutes avec un peu d'ordre et un peu de discipline. Mais les gens marchaient dans la boue, marchaient dans la flotte, il y a des trous partout, c'est en plein travaux et tout. Eh bien, personne ne disait rien. Personne ne disait rien. Les gars étaient là, tétanisés, de peur que s'ils râlent, on aille les foutre au trou, je ne sais rien. Mais il n'y a pas un gars qui... Il n'y a rien. C'était le bordel non organisé.
Voilà. Bien. Alors, on va maintenant passer au programme de l'émission, proprement dit, après cette petite mise en jambe. Roger, je t'ai invité ce soir pour plusieurs raisons. La première, c'est que il se trouve qu'on a perdu le commandant Guillaume lundi soir. Et tu étais un de ses amis, tu l'as connu.
Oui, je lui ai téléphoné la veille. Je voulais aller le voir à l'hôpital, j'ai appris qu'il était à l'hôpital, je lui ai téléphoné la veille de sa mort. Bon, et il m'a répondu sur son portable, mais je n'ai rien compris à ce qu'il disait. Il était vraiment mal en point, et la seule chose que j'ai compris, c'est qu'il souhaitait pas qu'on aille le voir, parce que malheureusement, il devait être dans un triste état.
Il a reçu un ami prêtre 8 jours plus tôt. Cet ami, en partant, lui a dit au revoir, commandant, et il lui a dit non, pas au revoir, adieu. Dans 8 jours, je ne serai plus là. Il savait exactement, c'est-à-dire il a dit ça 8 jours avant de mourir. Donc il était parfaitement au courant, le médecin l'avait tenu au courant de son état complètement, et il savait, il connaissait le délai, ce qui est extraordinaire, il savait...
Et moi ça m'a fait beaucoup de peine, et j'ai téléphoné à un certain nombre de copains qui étaient en prison avec nous, et j'ai eu la stupeur d'entendre mes amis pleurer au téléphone quand je leur ai annoncé la nouvelle, parce que c'était un monsieur, c'était un homme, quoi. Et je suis content aujourd'hui, à travers lui, grâce à lui, que les trois quarts l'histoire de la presse, hein, raconte un peu son histoire telle qu'elle a été, parce que son histoire, c'est un peu aussi, hein, aussi la nôtre, c'est celle de, quand même, de gens qui ont fait passer la patrie avant leur gamelle, avant leur porte-monnaie. C'était un très grand monsieur. Et je regrette d'autant plus qu'il soit mort maintenant, ou alors peut-être c'est mieux, parce que quand j'avais discuté il y a un mois avec lui, il était assez désespéré de cette histoire de l'année de l'Algérie en France. On avait déjà quelques échos.
Hein, 2003, c'est l'année de l'Algérie en France, vous voulez savoir. Ça sera toute l'année, vous allez être littéralement écrasé par...
On avait quelques papiers...
La propagande.
Oui, qu'on s'est montré mutuellement avec M. Mohamed Bourges, là, qui est un des meneurs dans cette affaire et tout. Et ça l'avait vraiment peiné. Et je regrette... Alors, je suis un peu partagé. Peut-être ne va-t-il pas voir ça, parce que je ne sais pas comment on va pouvoir supporter un an, hein, d'insultes, hein, sur l'armée française, sur la France, où la France a toujours tort, quoi qu'elle ait fait, elle a tort. Hein. Et on avait parlé ensemble de rameuter le maximum de gens, de façon que le Cercle National des Combattants, qui malheureusement est toujours en pointe dans ses affaires, mais est à peu près le seul, il n'y a pas beaucoup d'associations d'anciens combattants qui se mouillent comme nous nous sommes mouillés. Et lui était membre du CNC depuis des années, hein, il avait une place d'honneur au CNC, j'ai toujours été très fier qu'il soit là, parce que Guillaume, c'est pour nous, pour les gens de notre âge, c'est toute notre jeunesse, c'est même toute notre vie, parce que l'Indochine, les divisions navales d'assaut, les LCVP et autres, c'était une guerre de corsaires, mais pas de corsaires sous pavillon noir, de corsaires sous le pavillon français. Hein, ces flottilles fluviales étaient des endroits très 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 dangereux, parce que si par endroit les fleuves en Indochine sont larges, dans d'autres endroits la berge touchait des deux côtés, dans les arroyos et autres. Hein, et bien souvent les hommes de ces unités navales d'assaut, qui étaient sur des petites barges de débarquement qui avaient été modifiées pour être des engins pour aller dans les petites rivières, les arroyos d'Indochine. Hein, c'était des équipages de 4 ou 5, 6 types au maximum. Ils vivaient, ils logeaient là à 6, 8 parfois. C'était terriblement armé. Il y avait un canon de 20 à l'avant. Il y avait 2, 3 mitrailleuses sur les côtés. Il y avait des piates, un petit mortier par engin. Et tout l'armement individuel. Parce que les Viettes n'étaient pas des rigolos. C'était quand même avant tout des soldats. Hein. Et c'est un peu l'image de la marine, parce que la marine a été moins engagée en Algérie, mais en Indochine, elle était très 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 engagée, justement par cette flottille fluviale qui dépendait des fusiliers marins, mais qui n'étaient pas les commandos marines. Les commandos marines étaient tout autre chose. Les commandos marines étaient composés de commandos, tandis que la flottille fluviale et les divisions navales d'assaut étaient composées de marins de toute spécialité. Et sur ces bateaux, il y avait quand même une vie incroyable, parce que c'était une grande camaraderie. Hein. Quand ils quittaient la base pour partir sur zone, ils partaient 3, 4, 5 mois. Hein. Et là, il fallait quand même, je dis bien, vivre à bord. Hein. C'était la taille, l'intérieur était la taille d'un petit camion, quoi. Et là, il fallait dormir.
Ils étaient combien?
6 ou 8, quoi. Ah, hein. Oui. Et les divisions navales d'assaut, en général, il y avait 3 LCVP, c'est-à-dire trois petits engins. Et c'était un midship en général, un sous-lieutenant de marine, quoi, qui commandait. Les mecs passaient plus de temps en petits shorts noirs qu'en grande tenue de la marine. Mais par contre, quand ils rentraient à Saïgon, puisqu'il y avait une grosse flottille au sud, une grosse flottille au nord, et à Saïgon, la base arrière des divisions navales d'assaut était à Avalanche. C'est un port sur le fleuve, bien au-dessus du port de guerre où accostaient les grands bâtiments. Mais dans le port de guerre de Saïgon même, en pleine ville, il y avait toujours un croiseur, le croiseur amiral. Pendant toute la guerre d'Indochine, il y a eu un croiseur qui était le croiseur amiral avec le commandant de la marine en Indochine. Et là, sur ces croiseurs, qu'on appelait la marine blanche par rapport aux autres qui étaient la marine kaki, bon, mais il y avait toutes les traditions de la marine, le clairon qui sonnait et tout ça. Et quand une patrouille des trois LCVP rentrait, hein, eh bien, il fallait passer devant le bâtiment amiral, hein, et le bâtiment amiral sonnait les sonneurs pour ces petites embarcations. Mais un jour, les gars passent, ils étaient tous au garde à vous dans la cuvette, quoi, de l'engin de débarquement, et le pacha, le midship, saluait l'amiral, puis il y a une jonque qui dévie et qui rentre dans un des bateaux, hein, et tous les mecs sont bien obligés de monter à la manœuvre sur le pont, et l'amiral s'aperçoit avec stupeur que les mecs avaient le bachi et la chemise, mais étaient en slip dessous, quoi. Mais dans la cuvette, on les voyait pas, on ne voyait que la tête. Alors ça a fait un sac de nœuds qui aurait pu être évité, le midship a eu des problèmes, mais il y avait tout un tas de jeunes midship qui commandaient, puisqu'il y avait des dizaines et des dizaines d'engins, et un commandement c'était deux ou trois engins, deux ou trois LCVP, et il y avait aussi les LCM, mais c'était véritablement une marine de guerre fluviale, très difficile dans ces contextes de végétation luxuriante, et c'est les Français qui avaient mis ça au point, et les Américains ont repris la chose au moment de la guerre américaine.
Tu l'as connu comment, Pierre Guillaume?
Mais j'avais entendu parler de lui, parce qu'il y avait dans la marine en Indochine à cette époque-là deux ou trois têtes, vraiment des types qui étaient renommés, hein, pas parce qu'ils étaient bordéliques, il y avait un ou deux mecs qui étaient aussi bien au para que dans la Légion ou dans la marine.
Et qui étaient
des figures, mais qui étaient un peu axées sur les bagarres sanglantes dans les bars ou les bordels, ou foutaient le feu à un dancing ou autre en permission. Oui, mais la guerre d'Indochine, c'était quand même quelque chose. Il faut quand même bien rétablir les choses. Bon. On ne se battait pas pour le pognon, on ne faisait pas d'économie. Quand on partait en opération, on ne savait pas du tout si on allait revenir. Moi, mon bataillon, nous sommes partis à 900. Nous avons eu 800 types de renforts pendant les 2 ans de séjour, et nous sommes rentrés à 530. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Alors, quand on a 20 ans, hein, on peut marcher jour et nuit, on peut aller à la bagarre, rentrer, même pas avoir le temps de se reposer, puis être obligé de repartir, hein, des fois, on rentrait, on touchait 2 mois de solde. Bon, alors, la base arrière des bataillons para, c'était Hanoï. Bon, eh ben, on sortait dans Hanoï avec nos 2 mois de solde. Et quel était le but de la manœuvre? Mais c'était de claquer les 2 mois de solde. Hein, on allait, bon, ceux qui étaient mariés n'avaient même pas besoin d'envoyer l'argent à leur femme, puisque c'était pris. C'était pris et c'était déjà envoyé en France. Mais les autres, donc l'argent que tu touchais, c'était pour être claqué. Bon. Et puis tu disais, bon ben on va rester 2 jours. Alors tu disais, mais il faut que je claque ma paye en 2 jours. Et puis la nuit, hein, il y avait des mecs qui passaient dans les bordels, dans les bars, dans les hôtels, et qui rappelaient le bataillon parce qu'il fallait repartir, hein, le matin à l'aube. Alors les types qui étaient des jeunes mecs dynamiques, qui étaient fiers d'être parrains, qui étaient fiers de porter le béret rouge, au même titre que les mecs étaient fiers de porter le calot de la coloniale, ou les légionnaires, hein, fiers de porter le képi blanc ou le béret vert ensuite. Bon, ben les types étaient présents pour repartir. Il y a jamais personne ne manquait. Alors tu rentrais à la base arrière. Bon, tes munitions, tout ça, tout ton pactage militaire était prêt parce que tu le préparais avant de sortir au cas où. Mais les fringues, bon, ben tu prenais un sac, tu mettais ce que tu pouvais dedans. Moi, arrivé sur le terrain, quand les mecs étaient un peu débourrés, ils s'apercevaient qu'ils avaient pris 50 paires de chaussettes et qu'ils n'avaient pas un slip ou qu'ils n'avaient pas de godasse. Mais c'était ça. Ça a été c'est ça les parades indochines. Une grande amitié, une autre. Et tous ces engins de la marine n'étaient pas paras, mais c'était exactement le même état d'esprit. Les soldes étaient mis en commun. Ils achetaient la bouffe ensemble, ils achetaient la bière ensemble, ils achetaient ce qu'ils pouvaient acheter ensemble. Il n'y avait jamais un type qui avait un malheur dans sa famille sans que tout le monde file un peu de fric pour qu'ils envoient à la mer, ou le père était mort ou autre. N'importe quel pays au monde avec une armée pareille aurait fait 250 films et aurait glorifié ce mec de 20 ans qui mourait parce que on leur avait dit qu'il fallait aller défendre l'Empire. Parce que c'est ça aussi qui est fatigant. Et moi, je voudrais bien qu'avant de crever, on ait quand même un peu le pouvoir pour expliquer à la jeunesse de France pourquoi on est parti. Tout le monde était pour qu'on parte en Indochine, y compris le général de Gaulle. Le général de Gaulle a dit, il faut reconquérir l'Indochine. Et l'Indochine doit rester française. Et puis tous les autres, ils n'ont jamais dit le contraire. Alors on est parti parce que sur les cartes du monde qu'on avait dans les classes, ben, il y avait des grosses taches roses. Et tout ce qui était rose, c'était la France. Et quand on débarquait à Saïgon, quand on arrivait après un mois de mer, sur des cardos, bien des fois dégueulasses, il y avait des mecs qui mettaient 38, 45 jours pour arriver là-bas. Bon, les plus rapides mettaient 17, 18 jours. Bon, mais il fallait faire ce voyage à fond de cale. Et quand t'arrivais là-bas, que tu voyais sur le port de Saïgon cet immense drapeau tricolore qui flottait, mais tu arrivais chez toi. C'est la différence de cette jeunesse d'aujourd'hui à qui on n'a rien appris. On partait pour libérer un territoire français. Et les gens qui tiraient dans la gueule des soldats français n'étaient pas des gens qu'on pouvait respecter, c'était des salauds. Parce qu'ils comprenaient pas que la France leur avait amené un peu le bonheur. Alors c'est vrai qu'on a su ensuite, quand on était un peu plus vieux, qu'il y avait des gars qui exploitaient, qu'il y avait des mecs qui étaient pas très cool, qui étaient pas très normaux. Mais enfin, ça n'a pas changé aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Les Français qui étaient partis outre-mer, on disait pas... à Bordeaux ou à Marseille ou ailleurs, allez, quels sont les enfoirés qui veulent aller exploiter les Vietnamiens ou les Laotiens, les embarquer, qui voulait bien partir et qui avait envie de partir, et dans le lot, au point de vue civil, il y avait des gens corrects et il y avait des salauds, quelques salauds, mais il y avait aussi bien pour l'Indochine que pour l'Algérie, que pour toute l'Afrique, parmi les Blancs qui partaient, des gens qui partaient, parce qu'on leur avait enseigné à l'école le respect de la plus grande France, et la plus grande France, c'était l'Empire. Faudra quand même bien que tout ça soit dit un jour, et qu'il y en a marre qu'on soit constamment insulté. Alors, Guillaume, lui, est rentré. Bon, il n'a pas fait comme les autres. D'abord, il s'est mouillé en Indochine. Il s'est mouillé. Il a joué ses galons parce qu'il a rapatrié des catholiques du Tonkin. Des premiers boat people, il s'en est occupé. Et il les a chargés sur ses bateaux. Et puis, comme il avait du tempérament, il a vu ses copains des gros bateaux de la Marine Blanche. Et c'est grâce à lui qu'ils ont chargé des Vietnamiens, des catholiques vietnamiens. Donc, c'était un type qui mettait ses idées au bout de sa peau et qui se foutait pas mal du fric et de ses galons. Et ensuite, eh bien, pour pas faire comme tout le monde, il est rentré avec une jonque. Il fallait déjà avoir un peu l'idée de le faire, parce que l'Indochine, c'est pas à côté. Et puis ensuite, il est parti en Algérie. Et là, quand même, il a fait un truc que personne dans la marine n'a jamais fait. Son frère commandait un commando, le commando Guillaume, qui était un commando de chasse, un commando para très bon, une très très bonne unité. Et son frère ayant été tué au combat, eh bien, il a intrigué au plus haut niveau pour prendre la place de son frère. Et pour la première fois dans l'histoire, une unité de l'armée de terre était commandée par un marin.
Par l'officier de marine. Oui.
Voilà. Et ensuite, eh bien, je respecterai sa mémoire, parce que lui aussi pouvait très bien ne pas s'engager dans cette affaire. On n'a pas été des salauds d'être de l'OS. Être de l'OS, ça voulait dire garder l'Algérie à la France, garder le Sahara. On sera une puissance pétrolière aujourd'hui. Alors quand on vient nous dire, mais enfin, vous ne les vouliez pas, les Arabes, et puis maintenant ils sont là, vous les avez, mais on n'a jamais voulu ça. Nous, on voulait qu'ils soient français, mais avec une France qui avait gagné la guerre. C'était totalement différent. Nous, on n'aurait pas permis que les jeunes des banlieues... D'abord, ils seraient pas là. Ils seraient pas là. Parce que l'immigration ne se serait pas faite de là-bas vers ici, mais elle se serait faite de l'Europe vers là-bas. Avec l'Algérie et le Sahara, on pouvait faire leur Afrique. On pouvait faire tout, quelque chose de grand. Mais tout ça, ça les épatait un peu. au même titre qu'ils étaient étonnés de voir que des garçons de 20 ans, hein, de la CGT ou du Parti communiste, hein, quand ils étaient paras, défilés en chantant dans Alger, étaient fiers de l'uniforme qu'ils avaient, étaient fiers du béret rouge qu'ils avaient, ou du calot de la coloniale, ou du calot de le béret même de l'aviation, de l'aviation militaire ou autre, la latte et autres, tous ces soldats étaient fiers. Dans l'eau, il y avait quelques connards, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on ne se rappelle que de cela. On oublie que tous ont fait leur devoir très, très, très sérieusement, alors qu'ils étaient trahis. Alors qu'ils savaient que pour l'Indochine aussi, nous avions été trahis. Tout ça faudra peut-être le dire un jour. Mais est-ce qu'il faudra qu'on occupe une télévision, hein, avec des bombes, hein, pour menacer de se faire exploser, pour qu'un jour on nous donne l'occasion de dire ce que nous avons à dire? Bien moi, j'ai rejoint Le Pen parce que je pense que nous avons peut-être des chances de gagner un jour. Bien que ce soit très, 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 très difficile. Parce qu'ils ont peur de la vérité. Ils ont peur qu'on dise tout cela. Ils ont peur qu'on apprenne à la jeunesse de France un beau matin qu'ils ont pris la jeunesse de France pour des imbéciles, pour des connards qui leur racontent n'importe quoi. Voilà. Alors Guillaume, c'était cet emblème. Alors maintenant qu'il est mort, peut-être que des gens vont dire « Oui, oh, mais il ne savait pas très bien politiquement. Est-ce qu'il ne s'est pas laissé embarquer ?» Il s'est laissé embarquer dans rien du tout. Il était des nôtres. Voilà. Et je n'admettrai pas que quelqu'un demain vienne dire « Oui, mais le Front essaye de récupérer Guillaume » ou « Le CNC essaye de récupérer Guillaume »,« Le Pen essaye de récupérer Guillaume ». Personne n'essaye de récupérer qui que ce soit. Guillaume était des nôtres, point, virgule, et on passe à autre chose, simplement pour dire que c'était un grand homme et dire le respect que nous lui devons de son vivant et encore plus maintenant qu'il est mort.
Merci Roger. Merci. Je crois qu'il fallait dire ces choses-là. C'est certainement pas la télévision ou la radio officielle qui les dit.
Au sujet des colonies, bon, c'était pas une colonie française, c'était une colonie belge. Je parlais du Congo belge, qui est devenu maintenant la République démocratique du Congo. J'avais un camarade de promotion qui était donc à l'époque, ça s'appelait Zaïre, il était zaïrois, et il était fils de hauts fonctionnaires zaïrois. Et un jour, on parlait, et comme il voyait qu'il n'y avait pas de camarades de couleur dans ses, qui le surveillaient, il m'a dit cette phrase que j'ai beaucoup médité. Il m'a dit, tu sais la différence qu'il y a entre un esclave et un fonctionnaire zaïrois? Alors je lui dis, ben non, j'en sais rien. Il me regarde, il dit, l'esclave au moins, il est sûr de manger tous les jours.
Oui, on pourrait faire, on a fait déjà plusieurs émissions sur la vérité, la réalité de la colonisation.
Oui, c'est sûr. Grâce à Radio Courtoisie, les Français qui veulent savoir savent.
Voilà, il faut le dire et le redire sans arrêt, mais on a l'impression que on se bat contre un incendie de forêt avec des petites cuillères d'eau du robinet.
Parce que le plan est fait, hein, de diminuer la France, de ridiculiser la France, d'effacer la France et d'effacer l'Europe.
Non, je publie dans le prochain numéro du Libre Journal, tu parlais d'Alexandre Dumas tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une opération de propagande métisseuse qui a été entreprise, mais je publie deux ou trois papiers qui montrent à quel point cette opération a été montée comme une prise d'otage. Ils ont fait de Dumas un otage de la propagande métisseuse, et ce qui est extraordinaire, c'est que Dumas était totalement à l'inverse de ça, puisque dans ses mémoires, par exemple, je cite l'extrait de ses mémoires où il se décrit lui-même et dit « J'étais un enfant blond aux cheveux longs, aux yeux bleus, qui sont à peu près tous qui me restent de beau aujourd'hui, et au teint d'une extraordinaire blancheur que ma mère attribuait à l'eau de vie que mon père lui avait fait boire pendant sa grossesse. » Bon, alors, s'il écrit ça, c'est bien la preuve que lui-même n'avait pas du tout l'impression d'être un nègre. Et si quelques-uns, très peu d'ailleurs, l'avaient surnommé le nègre Dumas, c'était plutôt pour le taquiner que pour autre chose. Parce qu'il faut quand même, ce qui est très difficile à faire comprendre aujourd'hui, notamment aux jeunes gens, c'est que on vit dans un effrayant anachronisme. C'est-à-dire qu'on considère les événements du passé avec l'expérience qu'on a aujourd'hui. Alors évidemment, nous on vit dans un pays où il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Africains dans les rues, partout. Et il est évident que cette omniprésence finit par provoquer des réactions. Mais à l'époque, au XIXe siècle, à l'époque de Dumas, un nègre à Paris, c'était un événement pittoresque. Il n'y avait pas le moindre sentiment d'hostilité. Tout au plus, ça amusait les gens. Et il y avait par exemple un des personnages qui était un des personnages du cirque, un des premiers couples de clowns, c'était le couple Foutit et Chocolat. Et Chocolat était maquillé en nègre et il disait toujours je suis chocolat », ce qui a donné d'ailleurs la formule « être chocolat » aujourd'hui. Bon. Donc il n'y avait absolument aucune agressivité, aucun racisme. Le racisme n'existait pas et Dumas ne l'a jamais connu. C'est un mensonge. De Coin et Chirac qui ont présenté, qui ont présidé les cérémonies de la translation, ont menti. Ils ont menti ouvertement. Oui, de même quand Chirac a dit, mais bien sûr, et quand Chirac dit que Dumas était un ardent républicain qui a participé aux journées de 1830, c'est un mensonge absolu. Dumas raconte les Trois Glorieuses lui-même, il dit qu'il est allé voir équipé d'une façon d'ailleurs rigolote à bord d'un fiacre, il est allé voir ce qui se passait, il a entendu qu'on allait fusiller le duc de Chartres, il s'est précipité pour essayer de le défendre, ce qui est quand même pas typiquement une attitude républicaine. Le duc de Chartres n'a pas été fusillé et après il est rentré chez lui tout content de s'être occupé pendant les trois jours, et il a écrit par la suite un texte qui est accablant sur les confiscateurs, si j'ose dire, de la République, sur, et ça je pense que Chirac aurait dû lire ce texte quand il a rendu hommage à Dumas, quand il a rendu un prétendu hommage à Dumas, il aurait dû lire ce texte parce que c'est un magnifique portrait de ce qu'il est lui, c'est-à-dire ces gens qui ont volé par des manœuvres à la fois malhonnêtes et vicieuses le pouvoir à ceux qui avaient combattu. Et donc Dumas dit, ils se haussent, ces gens qui ont gardé le trésor au risque de leur vie, se haussent sur la pointe de leurs pieds nus pour voir à travers les fenêtres des palais nationaux ceux qui leur ont volé la victoire se partager les miettes du gâteau. C'est exactement ça.
Je sais pas si tu as vu, mais aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Le viril Godin, maire de Marseille, a annoncé que Chirac se présenterait une troisième fois. Alors, avec l'UMP, ils vont essayer de changer la loi, et on a des chances qu'il se présente une troisième fois, étant donné que... il a peur d'aller au trou. Voilà.
Oui, c'est sa seule protection.
C'est pas plus compliqué.
Et puis la troisième chose, toujours à propos de Dumas, c'est intéressant cette histoire d'Dumas parce que en soi, ça pourrait être anecdotique, mais en réalité, c'est parfaitement emblématique du fonctionnement des institutions et des hommes et des médias aujourd'hui. Et donc le troisième article que je publie, c'est le texte que Dumas lui-même a écrit sur le Panthéon. Dans La Comtesse de Charny, il a raconté la fondation du Panthéon au moment de la mort de Mirabeau, quand on a décidé de transformer l'église Sainte-Geneviève en nécropole pour les grands hommes, pour héberger pour recevoir le corps de Mirabeau. Il raconte comment ça s'est passé et il raconte aussi comment 3 ans plus tard, on a envoyé un huissier pour exiger que le corps de Mirabeau soit exhumé du Panthéon et soit jeté à la décharge publique à Clamart, parce que le héros Mirabeau était devenu la canaille Mirabeau. Et Dumas a quelques phrases extraordinaires dans lesquelles il dit « Quand la République eut tué le roi, la reine, le dauphin, quand elle eut tué les Jacobins, les Girondins, les Montagnards,
les Hébertistes.
Quand elle eut tué jusqu'à elle-même, elle entreprit de tuer les morts. Mmh. Voilà ce qu'était le républicain Alexandre Dumas. Et quand on voit cette face de carême de Chirac venir dire devant des millions de Français qui ne savent rien, à qui on n'a jamais enseigné l'histoire, qui n'ont jamais rien lu, ils connaissent Dumas parce qu'ils ont vu 27 versions du Comte de Monte Cristo et 74 versions des Trois Mousquetaires, généralement châtrés comme la scandaleuse version qu'a diffusée hier soir une chaîne de télévision, une chaîne américaine, enfin une version américaine qui est à pleurer littéralement. Bon. Alors évidemment, quand Chirac vient dire ça, tout le monde pense de toute bonne foi que ce pauvre Dumas était un nègre persécuté qui n'a trouvé de secours que dans la République. Et quand on raconte comment son père, quand Chirac fait allusion au fait que le père de Dumas a été vendu comme esclave, c'est un mensonge, c'est tout simplement faux. Le meilleur spécialiste de Dumas dit que c'est très probablement une légende, et la meilleure preuve que c'est une légende, c'est que à 14 ans, le père de Dumas, qui était à Saint-Domingue, est venu rejoindre son père, lui, qui était en Normandie, et s'il avait été esclave, il aurait été esclave marron, on l'aurait jamais laissé s'échapper de Saint-Domingue. Donc on nous a fabriqué un Dumas de pacotille, une marionnette de Dumas, qui est censé incarner l'immigré clandestin, comme tu le disais tout à l'heure, le sans-papier, et on l'a collé au Panthéon, à son corps défendant, et contre d'ailleurs sa propre volonté, puisque quand il a été enterré à Villers-Cotterêts, d'abord il a été enterré, il est mort à Dieppe. Et comme les Prussiens occupaient le nord de la France, son fils n'a pas voulu qu'il soit inhumé en terre occupée. Donc il l'a fait inhumer provisoirement à côté de Dieppe, dans un petit village très proche de Dieppe. Et deux ans plus tard, le corps, c'est-à-dire c'est un corps voyageur, le corps a été exhumé, transporté à Villers-Cotterêts et enterré à Villers-Cotterêts. Et Dumas fils commence le discours qu'il prononce sur la tombe de son père, pour la réinhumation, en disant « Mon père avait émis le vœu d'être enterré à Villers-Cotterêts, parce que c'est là que se trouvaient ses parents, ses amis et ses souvenirs. » Et voilà que, 130 ans plus tard, ces abrutis incultes et ces petits mafieux politicards vont extraire de nouveau, exhumer de nouveau le corps d'Alexandre Dumas pour une espèce de cérémonie totalement délirante, macabre. On l'a transporté de lieu en lieu. On l'a emmené à Monte Cristo, enfin à Marly. On l'a emmené au Sénat, où probablement les vieux sénateurs sont venus contempler ce qu'ils allaient être dans pas longtemps. Je vois pas d'autre explication à leur fascination pour ça. Et ensuite, on l'a amené dans cette nécropole, dans cette espèce de sinistre sépulcre qui est le Panthéon. Et moi, pour tout l'or du monde, je voudrais pas qu'on mette ma pauvre dépouille dans cet endroit.
On y veillera.
C'est effroyant. Oui.
Surtout ne m'enterrez pas au Panthéon.
Je ne serai pas enterré au Panthéon.
Pour résumer, nous sommes gouvernés par des canailles et des imbéciles. Voilà.
Mais enfin, on est quand même un peu pour la discipline. On dit toujours que si on avait le pouvoir dans ce pays, on ferait régner un peu d'ordre et un peu de discipline. Mais enfin, tu as été certainement étonné comme moi-même d'entendre Sarkozy, quoi, au sujet, tu disais tout à l'heure, quoi. Mais enfin, je me demandais si c'était pas un gag, si c'était,
Hitler.
Mais c'était ahurissant, nous allons truffer les autoroutes de caméras, de signaux. Enfin, c'est n'importe quoi.
Il a raté sa vocation. On dit que Christian Clavier se veut le successeur de Louis de Funès. Je pense que Sarkozy aurait fait pas mal non plus dans le rôle.
C'est beaucoup plus.
Il y a du Louis de Funès chez Sarkozy.
Comment on va agiter, bon, alors, maintenant, une question, parce que je vois que tu regardes ta montre.
Non, je vais regarder pour toi. Non, pas du tout. Je veux savoir justement combien de temps on avait pour parler encore, parce que je suis toujours content.
On va donner la parole au docteur Dor.
Comme j'ai parlé de Guillaume et autres, je ne veux pas mélanger les choses. Je te demanderai si tu peux parler du réveillon du tout à l'heure. Tu donnes le numéro en bas surtout. Hein.
Ce que je voudrais, c'est que tu nous donnes des nouvelles du front, les dernières nouvelles du front.
Je pense que ça va. Moi, je fais pas mal de réunions en ce moment. Là, j'étais l'autre soir, j'ai encore créé une section du CNC avec remise d'un drapeau. Un drapeau, c'est quand même 8 ou 9 000 balles. Hein. C'est pas rien. Je parle toujours en francs. Je parle pas en euros. Je sais jamais faire la conversion. J'étais à Cannes. Il y avait 200 personnes pour un déjeuner. Ils ont refusé du monde. Je vois de plus en plus de gens qui sont inquiets. C'est pas une très très bonne ambiance qui règne dans le pays. Le temps y est certainement pas.
Tu connais le vieux dicton, plus en novembre, Noël en décembre. Ça finira par arriver.
Autrement, les gens continuent à travailler au front, mais ont quand même un peu la possibilité de lever le pied pour quelque temps, parce que on va repartir en grosse campagne électorale dès le début de l'année, où il y a le congrès, il y a pas mal de choses. Les adhésions continuent à rentrer.
Alors, je lis quelques messages. Reprenons. Parce qu'il y a 5 ou 6 messages ou plus qui disent tous la même chose, c'est-à-dire merci Roger Lande. Donc, je ne vais pas tous les lire. Merci Roger Lande pour tout ce qu'il dit. Merci à Serge de Becquetch pour inviter des hommes, mais j'invite aussi des femmes. Hein, c'est bien. Alors, merci. Alors, monsieur de Becquetch, vous avez eu des mots désobligeants à l'égard des métis. Nous avons des sentiments plus français et patriotiques que beaucoup de blondes aux yeux bleus.
Non,
qu'est-ce que j'ai dit sur les métis?
Mais non, moi j'ai dit que j'aimais bien les métis. Alors,
rien dit, c'est exagéré. J'ai dit, je suis contre le métissage, mais ça, c'est je suis pas contre les métis. Je suis contre le métissage. Je trouve que ça fait pas avancer le schmilblick, c'est tout. Mais les métis, j'ai absolument rien contre eux. C'est leur affaire, c'est l'affaire de leurs parents. Et chacun vit comme il l'entend. Mais moi, je trouve que la propagande métisseuse du pouvoir actuel est scandaleuse. Voilà, c'est tout.
Bon. Surtout qu'ils se gardent bien de donner l'exemple.
Allons, ne soyons pas pessimistes. On approche de ce que en résistance des matériaux, on appelle la limite élastique. Et c'est une bonne chose.
Ouais.
La limite élastique, c'est juste le moment où ça pète. Ouais, ouais. En général, on prend l'élastique, ouais. Enfin la moitié de l'élastique.
Mais je sais ce que le truc élastique, là, comment il dit, le monsieur, là.
La limite élastique.
La limite élastique.
Toi, tu connais la défense,
oui.
Élastique.
Non, la limite élastique, mais je l'ai vécu un jour. J'étais en reportage au Japon, dans l'île de Hokkaido, et je mangeais avec un missionnaire français, qui venait de recevoir la Légion d'honneur, mais qui la méritait vraiment. C'était vraiment un grand français. Et on était dans un restaurant japonais, forcément au Japon, et il y a eu un tremblement de terre. Bon, il y en a très 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 souvent. Enfin, moi, c'était mon premier tremblement de terre avec autant de force. Et là, la limite élastique dont parle ce monsieur, je l'ai vu parce que ça montait, et à un moment, tu sens que ça va péter, que tout va péter, et puis là, hop, c'est redescendu. Hein.
Et ça n'a pas pété.
Oui, mais je suis d'accord avec lui qu'il y a une limite élastique. Mais moi, je donne une autre image de la situation de la France, hein, que je ne souhaite pas du tout, parce que la différence de certains imbéciles qui pensent que demain il y aura la guerre civile et qui s'en réjouissent, moi j'ai trop vu de guerre civile sur toute la planète pour le souhaiter pour notre pays. Mais je crois que ce gouvernement, il risque de lui arriver un coup dur un jour, hein, parce que ce sont des rigolos, hein. Ce sont des rigolos et des menteurs, hein, qui truquent l'information et qui truquent même l'histoire de France. On l'a démontré avec l'affaire Dumas. Mais je pense que la France, à certains moments, et peut-être en ce moment, me fait penser à un dépôt d'essence, où il y a partout des pancartes, défense de fumée, attention, hein, et puis les mecs chargent les camions d'essence, puis allument leur clope, hein, ça marche pas, il remet le gars avec son clope au bord des lèvres, il rallume son clope, puis il n'y a jamais rien. Puis un soir, il y a un mec qui est paumé, hein, il cherche sa route, il voit une lumière dans une baraque, c'est la baraque du dépôt d'essence, et il appuie sur le bouton électrique pour qu'on lui ouvre, hein, et là, il y a une étincelle d'un millionième d'étincelle et tout le dépôt pète. Et je crois que malheureusement c'est ça, parce que la dégringolade, le mensonge et tout, je vous ai raconté cette histoire. Moi, j'essaye de garder une mémoire journalistique, parce que sans prétention, j'étais un bon journaliste, j'étais bien payé un match, c'est quand même dans la profession, tout le monde sait que si t'es bien payé en général, c'est que si t'es pas du Sérail, hein, et si t'es pas franc-max, si t'es bien payé, il y a bien une raison. Moi, j'essayais de faire du bon boulot, et je leur avais expliqué toutes ces choses. Je trouvais que le mensonge était quand même un peu systématiquement anti-français, quoi. Et j'avais cité un certain nombre d'exemples, et ça se passait, le journal, la match, le journal était, ça y est, c'était fait, le bouclage avait eu lieu dans la nuit, on était là le lendemain matin pour voir le résultat. Moi, j'étais là parce que j'avais un gros article, j'avais parlé de tout ça avec des gars qui n'étaient pas spécialement de droite, hein. Et je leur avais expliqué ces choses en leur donnant des exemples de pays où ils avaient été. Et c'est grâce à moi qu'ils ont repéré par la suite des choses qu'ils n'avaient pas vues quand ils étaient sur place. Et je pense que c'est pour ça que les autres, hein, ne nous donnent pas l'information, ne nous laissent pas parler. Parce que le fait que, tu vois, la mort de Guillaume, pour en revenir à la mort de cet ami, ma grande joie, ça sera quand même d'avoir vu une des flèches de l'AFP qui ne le traîne pas dans la boue. Elle est très importante, elle fait une page, hein, je t'en laisse un exemplaire si tu ne l'as pas, un article dans le Figaro qui est correct. Je crois que tous les bobards de ces gens-là ne ressemblent pas à grand-chose. Alors, il y a l'affaire Dumas qui est une manipulation qu'il va falloir qu'on dénonce quand même pendant quelque temps, parce qu'on ne peut pas les laisser là-dessus. Mais j'avais raconté, peut-être même une fois en passant à l'émission, à une émission chez toi, un soir à la télé, je regarde un reportage dans un quartier et il y avait toute une équipe de joyeux mecs de la télé qui étaient là. Hein. Alors, ils une Française, enfin une blanche qui était là, hein, dit « Ah mais vous êtes la seule femme blanche qu'on voit. Ah oui, je suis Mamie Thérèse. Ah, bonjour Mamie Thérèse. Alors oui, mais ils m'appellent tous comme ça. Mamie Thérèse, je suis leur mamie. Je suis la dernière Française de l'immeuble. Ah, et ça marche. Oui, ça marche bien. Le vendredi, on fait le couscous. Le samedi, on fait la danse du ventre. Et l'autre petit pédé qui dit « Mais vous voyez, ça marche l'intégration. La vieille était devenue arabe, ça marchait l'intégration. Alors, est-ce que c'est être raciste est-ce que c'est être raciste de dire ce que je dis? La vieille était devenue arabe.
C'est l'osier.
Elle faisait la danse du ventre, c'était merveilleux. C'est ça l'intégration. C'est ça. Ça pourra pas durer. Ou alors, il va falloir qu'ils mettent, qu'ils ouvrent les vannes de plus en plus. Mais s'ils ouvrent les vannes de plus en plus, bien, ma petite histoire de la sonnette qui fait une étincelle minuscule, fera sauter le bazar.
De toute façon, il y a un fait qui est évident, c'est que, supposons un immeuble dans lequel il y a deux appartements. Un appartement de 2 pièces avec 30 personnes qui vivent dedans, et un appartement de 8 pièces avec... ou de 4 pièces avec une personne qui vit dedans. Bon, la personne qui vit dans l'appartement de 4 pièces toute seule, elle dit à 2 ou 3 personnes de l'appartement d'une pièce où ils sont à 12, venez habiter chez moi, je vous donne une chambre. Mmh. Mais à partir du moment où les 12 vont venir vivre dans l'appartement de 4 pièces, ça sera beaucoup moins intéressant de vivre dans l'appartement de 4 pièces. Donc ils vont retourner chez eux.
Mais il y a quelque temps, je montais à Valenciennes. Bon, et je suis dans le train, en première classe, hein, et je suis à une table de 4. Tu sais, au milieu, il y a une table pour 4 personnes. Bon, il y avait deux Français qui étaient là, pas très reluisants, hein, et une jeune fille d'origine maghrébine, très bien habillée, très correcte, très propre et tout. Bon, je discute pas avec elle, je lui dis bonjour et tout ça, mais les deux Français descendent à moitié du chemin. Valenciennes, c'est pas la porte à côté, j'avais une heure devant moi, je discute avec elle, je lui dis qui j'étais, que j'étais du Front National, vice-président du Front National, hein. Je lui pose des questions sur sa vie et tout ça. Elle venait de faire des études très brillantes, hein, et elle avait pour ambition d'être procureur de la République, un jour. Je lui parle des valeurs que je défendais. Elle me dit, mais monsieur, les valeurs que vous défendez au Front National avec Le Pen, beaucoup de gens de chez moi et ma famille les partagent. Mais je peux vous dire une chose, parce qu'on va se quitter dans 10 minutes, vous serez arrivé, on ne se reverra peut-être jamais. Hein. Depuis que je fais des études, je n'ai vu que des Français qui me disaient du mal de la France. Voilà.
Alors, je continue la lecture des messages. Je suis outré, je suis même zoutré, nous dit cet auditeur, par ce que j'entends. Votre intervenant exagère, on ne peut plus respecter vos idées. Ah et bon? Il signe, parce qu'il dit qu'il ne veut pas que son message soit anonyme, ce qui est gentil et bien. Mais je...
Non, mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire?
Je ne vois pas trop.
J'étais dans le même secteur que le commandant Guillaume en Algérie. Je suggère à Roger Hollande de créer un cercle des amis du commandant Guillaume. Oui. Mon mari, ancien de Saumur, était très fier que sa promotion s'appelât Dien Bien Phu. C'est vrai. Mon père est tombé à Dien Bien Phu, donc c'est un mot qui est sensible. Mais comme j'ai un petit démon de l'humour qui me chatouille tout le temps, je ne peux pas me retenir de penser à l'histoire du Français qui arrive à Londres et qui dit « Ils sont quand même bizarres, ces Anglais, ils donnent à toute leur garde des noms de défauts.
» Oui. Trafalgar.
Parlez-nous du commandant Guillaume, ben c'est fait, je crois. Roger Hollande, pouvez-vous nous parler du nouveau maire de Sevran qui a augmenté son indemnité de 35%?
Eh ben, il s'est fait taper dessus par des jeunes il y a quelque temps là dans un quartier de sa ville.
C'est bien avoiné.
Oui, il s'est bien fait avoiner. Oui.
Non, mais il faut dire aussi 35%, ça n'a pas beaucoup de sens parce que les maires en France sont payés vraiment avec des élastiques. C'est ridicule les indemnités de maire. Quand on sait ce que ça représente d'être maire d'une grande ville, j'ai connu ça très brièvement à Toulon. Pas pour mon compte personnel, enfin j'ai vu ce que c'est que la vie d'un maire, je l'ai vu de près, de l'intérieur. Je vous assure qu'il n'y a pas de salaire trop lourd, trop gros pour des gens qui font ce métier-là. Je parle des maires qui sont vraiment maires, pas des gens qui se contentent de se balader de Gay Pride en soirée et couscous.
La gestion d'une commune, c'est du boulot, si c'est bien.
Donc 35%, si c'est 35% de 3000 francs, ça fait 4000 francs, c'est quand même, il n'y a pas de quoi... fouetter un masochisme.
Bah, une commune de la taille de Sevran, les indemnités d'un maire, vu la taille de Sevran, ça doit se monter à quelque chose comme 14 000 francs par mois.
Oui,
c'est pas gras quand même, par rapport à la responsabilité.
C'est vrai que c'est une responsabilité énorme, un travail terriblement. En 1798, quand Bonaparte est parti en Égypte, il a donné le commandement de la cavalerie au général Dumas, père d'Alexandre, nous dit un auditeur. Avant-hier, sur une radio, Yvan Levaille, citant un journaliste du Figaro, déclarait qu'il fallait pourchasser les chauffards. Qu'arriverait-il si un journaliste préconisait les mêmes mesures contre les sauvageons? Ben oui, c'est bien le problème. Les grands responsables de la situation actuelle sont les gens au pouvoir qui continuent à laisser les médias aux mains de la gauche. Parce qu'ils sont de gauche, c'est normal. Merci à Roger Hollande pour tout. Pour combattre la propagande qui va s'accentuer en 2003, peut-on avoir le 8 pages édité par le CLPP Honneur à l'armée française d'Algérie? Ils ont dit torture.
Oui.
Tu l'as toujours,
oui,
ça?
Oui.
À quelle adresse?
Ce qu'il faut aussi pour nous aider pour l'année qui vient, c'est qu'il faut qu'il y ait un maximum d'anciens combattants qui rejoignent le cercle national des combattants. On a besoin de monde, on a besoin de délégués, on a besoin de créer des sections un peu partout, parce que quand même la force d'une association, c'est quand même qu'elle soit représentée dans un maximum de villes. Ça permet, en envoyant des papiers, de travailler le même jour, à la même heure, un peu partout, quoi.
Alors beaucoup de messages à propos de Pierre, du commandant Guillaume, Jean-Baptiste, je donne les noms puisqu'il les indique, Jean-Baptiste Chartier, le Lorrainquier, très attristé de la mort de notre commandant Guillaume, Roger Lindre en a fait un excellent portrait, Bob Denard en est encore un fidèle ami, où et quand pourrons-nous l'accompagner sur un autre ciel? Merci à vous tous, amicalement.
Eh bien, l'enterrement, c'est vendredi matin à 10h30, à la chapelle du Val-de-Grâce. Bon, le CNC sera là avec une grande partie de ses drapeaux, et beaucoup de gens seront là avec les bérets de tradition et les décorations.
Pierre-Henri d'Astro. Merci d'être là maintenant que le crabe tambour a cassé sa pipe. Chacune de tes interventions sur Radio Courtoisie, c'est à Roger que ça s'adresse, nous réchauffe le cœur et on en a bien besoin aujourd'hui. Pourtant, étant de la classe 76, je n'ai a priori rien à voir avec les anciens combattants que vous êtes, mais ça, Roger répondra qu'il n'y a pas d'anciens combattants, il n'y a que des combattants. Comme quoi, parler avec son cœur et avec ses tripes comme vous autres, c'est la meilleure façon de franchir la soi-disant barrière des générations. Fidèle auditeur ému par la disparition du commandant Guillaume, je propose que Jean Ferré confie son remplacement à Roger Hollande le lundi. J'aimerais que M. Hollande remplace le commandant Guillaume.
Ah bon?
Il faut en causer, comme disait l'autre. Enfin, on en cause. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Autrement, il y a des messages qui sont...
Sur
Dumas, donc... à votre avis, l'actualité résume-t-elle ce que l'on nous montre à la TV ou à la radio? Se résume-t-elle à ce qu'on nous montre à la télé ou à la radio? Je crois qu'on a répondu. Avez-vous remarqué que, pour une fois, Alain Decaux racontait les histoires un petit peu moins bien que M. Chirac? Je crois que celui-ci a plus l'habitude. Il y a une loi qui oblige à respecter la volonté des morts. En cas de non-respect, la peine est de 3 ans de prison et 500 000 francs d'amende. On va pas le dire à Chirac parce que ça va être encore une raison de plus de se représenter pour un troisième quinquennat. Enfin, à la RATP, on a engagé des employés non européens. Cela a été entendu ce matin sur
Orange. Oui, c'est aujourd'hui que ça a été divulgué, oui.
Voilà. Très bien. L'INSEE. Ah oui, c'est très drôle, ça. Message de l'INSEE. Vous êtes tous cernés par des optimistes. Rendez-vous. Bien. Alors, peux-tu dire quand auront lieu les obsèques du Crabe Tambour? On répète, c'est...
Vendredi matin, à la chapelle du Val-de-Grâce, à 10h30. Mais enfin, il vaut mieux arriver un peu plus tôt, quand même. Hein. Les gens du CNC sont convoqués au minimum à 10h, même un peu plus tôt s'ils veulent, de façon qu'on forme le carré, qu'on voit un peu la tenue des gens, que tout ça, ça se sait de la gueule.
Et alors, je vais vous montrer. Vous savez, souvent, je dis, on peut pas répondre aux questions parce qu'elles arrivent après la bataille. Alors là, par exemple, il y a un message fax qui est parti à 19h52, ce qui est bizarre d'ailleurs parce que je le reçois à 19h15, ce qui laisserait entendre que peut-être il y a un pli dans le continuum temporel.
Ouais, ouais, voilà, tout simplement, il a oublié de mettre son fax à l'heure d'hiver.
Voilà. Donc, en tout cas, espérant que ce fax atteindra votre micro. Votre émission a commencé sans le moindre hommage à Pierre Guillaume, un peu de reconnaissance SVP pour celui qui fut un grand bonhomme.
Oui, ben...
Voilà. Donc voilà pourquoi des fois on ne lit pas certains messages. C'est parce qu'ils arrivent trop tard, qu'est-ce que vous voulez. Et si je donnais le nom de ce monsieur, il serait bien embarrassé. Hein. Maintenant, je vais donner les noms. Nous donnerons des noms. Là, vous croyez que vous allez danser, mais... Voilà, je me tourne vers le docteur Dor. Docteur, vous vouliez nous dire des choses?
Oui, enfin plusieurs choses. Tout d'abord, le commandant Guillaume, je l'ai assez souvent, pas très souvent, mais assez souvent quand même, écouté à le lundi à Radio Courtoisie. Et j'avoue que, sans le connaître, mais pas autrement que sa façon d'être, je dirais, c'était évident, c'était un homme incapable de bassesse. Ça se sentait au premier son incroyable.
Ah donc, oui, c'était un vrai breton.
Tout à fait marin.
D'abord, il y a la dimension du marin chez lui. La marine, c'est quelque chose, on ne peut pas mentir. Un marin, un voilier, peut pas mentir. Il peut pas se mentir à lui-même, il peut pas mentir aux autres, et il peut pas accepter qu'on lui mente, tout simplement parce que la sanction est immédiate. Hein, voilà. Et puis quand on voyait ce gaillard extraordinaire, cette espèce de grand personnage, qui avait toujours l'impression d'avoir le regard fixé sur l'horizon, comme il était très grand, on avait toujours l'impression qu'il regardait par-dessus la tête de celui à qui il parlait. Et je me souviens de l'avoir vu plusieurs fois à Riaumont. C'était un ami de Riaumont. Il n'était pas devenu un ami de Riaumont par hasard. C'était quelqu'un qui ne donnait pas son amitié très facilement et qui ne donnait pas son appui très facilement. Il a étudié longuement.
N'importe comment.
C'est ça. Hein. Et il a réfléchi longuement. Il a examiné ce que c'était. Et quand il a apporté son amitié au Père Argouache, c'était vraiment. C'était pas pour rire. C'était un très très grand bonhomme. À tout point de vue, c'est sûr. Avec l'un des aspects de sa personnalité, c'était que, je ne sais pas comment je vais dire ça, parce que sans blesser, il n'était pas sympathique. Voilà. C'était pas ce genre de bonhomme dont on dit ah disons qu'est-ce qu'il est sympa celui-là. C'est pas du tout ça. C'était un type dur, raide, qui avait de l'âme, mais qui c'était un vrai breton, quoi. Non,
tu crois? Oui, pas, c'est sûr.
Il n'était pas bonhomme, voilà. C'était un grand bonhomme, mais il n'était pas bonhomme. Il n'avait pas de manière. Il faisait pas de. Donc quand il se livrait, quand il livrait son amitié, on pouvait être sûr que c'était vraiment du solide. Voilà.
Alors, je dirais une deuxième chose. Enfin, tu en parles du Panthéon, mais je parlais de l'avortement après. Le Panthéon, pour moi, c'est le comble de l'horreur. Je pense que c'est un
rendez-vous. Votre conversation est décousue.
C'est un rendez-vous satanique. Et je déplore beaucoup que ce malheureux Dumas, qui certainement ne voulait pas trop avoir avec Satan, mais je pense que c'est un repère horrible. Et comme vous diriez, la pire des choses à faire pour nous, ce serait d'être inhumé là-bas.